Bonjour à tous, donc bienvenue sur mon podcast Restaure ta famille. Donc aujourd'hui, on va parler coparentalité avec une invitée d'honneur, avec Jessica Shirley, auteure.
Bonjour à tous.
Bah, je te laisse te présenter, hein, Jessica.
Oui, eh bien, avec plaisir. Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Jessica Shirley Bakissi. Je suis l'auteure du livre « Quand le prince charmant se transforme en monstre ». Et je suis maman d'une petite pépette de 7 ans et demi. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Waouh, le même âge que mon fils. Donc,
Oui, c'est ça.
2016
Alors 2015, elle a un an vu qu'elle est de fin d'année. Elle est
le 27 octobre. Donc bientôt 8 ans.
Voilà, c'est ça. 8 ans au mois d'octobre.
D'accord.
Donc ils se suivent de très près.
Non, bah, c'est parfait. Donc oui, aujourd'hui, comme je disais, on va parler de coparentalité. Ben, qui dit coparentalité, dit ben, séparation. Hein. C'est malheureusement lié. Hein. C'est une des conséquences. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de la gestion. Comment on fait pour gérer une coparentalité? Comment on fait pour avoir une coparentalité sereine, qui se passe bien? Quels sont les tips? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mères ou de pères qui sont dans ce cas-là, malheureusement, avec l'explosion des séparations, des divorces, entre autres. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse partager notre expérience, qu'on puisse partager aussi nos doutes, hein, parce que c'est... Quand elle est nouvelle, bah, y a forcément des choses qu'on découvre au fur et à mesure. On n'a pas forcément toutes les réponses. C'est l'expérience aussi de la vie, hein. On expérimente une nouvelle situation. Et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Donc, je vais te demander tout d'abord, toi, comment tu fais pour gérer la coparentalité? Est-ce que ça se passe bien? Explique-nous un peu, s'il te plaît.
Oui, bien sûr. Alors, comment je pourrais le dire? Eh bien, il y a des hauts et il y a des bas. Parce que c'est vrai qu'une séparation, ce n'est pas forcément évidente. Après, tout dépend aussi de la manière dont on se sépare. C'est vrai qu'il y a des couples, je pense, qui ont cette chance et surtout cette maturité qui fait qu'après la séparation, ils arrivent quand même à avoir des relations, on va dire, plutôt saines. Et il y a d'autres couples aussi où on retrouve une séparation qui s'est peut-être faite avec un déchirement par la suite. Donc c'est vrai que les deux ou l'un des deux peut être encore en colère par rapport à cette séparation.
Donc, c'est pas évident.
Exactement. Ce qui est dans mon cas, parce que c'est vrai que je suis séparée donc avec le papa de la petite.
Ça fait combien de temps?
On est séparés. Alors maintenant, ça va faire 3 ans. Depuis 2020.
D'accord.
Des débuts d'année en 2020, donc ça va faire bientôt 3 ans. Donc moi, j'ai décidé de quitter le domicile conjugal après de multiples infidélités de monsieur et surtout après quelques années de mariage. Hein, je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'amour avec un grand A que je pensais partager avec monsieur. Sans rentrer dans les détails, mais justement pour ceux qui souhaitent le découvrir, vous pouvez découvrir avec mon livre, hein, Quand le prince charmant se transforme en monstre. Et c'est vrai que je suis dans ce cas-là, c'est-à-dire que les relations sont un peu complexes parce que on s'est séparés, il y a eu des disputes par la suite, on a justement un enfant ensemble, et c'est vrai que par moment, ça peut être très compliqué dans la mesure où même si on a la garde partagé. Donc moi je l'ai pendant 5 jours et lui il a donc les 2 jours dans la semaine, mais c'est vrai que j'ai l'impression que monsieur se repose beaucoup sur moi.
Oui, c'est une des choses que des fois on peut voir dans la coparentalité, c'est que au départ on se met d'accord sur un rythme et finalement en réalité ce rythme il est pas trop respecté et c'est un autre rythme malheureusement qui existe en fait, qui est mise en place.
Tout à fait, exactement. Donc c'est vrai que même si au départ pour la petite je me disais très bien, allez, fais un effort, l'essentiel c'est de dire bonjour, au revoir et vraiment rester sans forcément rentrer dans les détails, mais c'est vrai que de l'autre côté t'as l'impression que des fois il veut rentrer un petit peu disons que c'est comme s'il anticipait un combat alors que c'est pas utile finalement parce que on cherche le bien-être de la petite et ça en devient presque malsain. en fait. Donc c'est bien justement qu'on en parle, parce que c'est pas forcément évident tous les jours de pouvoir justement avoir une coparentalité, on va dire, saine.
Oui, c'est vrai que c'est pas évident, sachant que très souvent, la problématique que j'ai pu observer dans tout ce qui concerne les divorces et séparations, c'est qu'en fait, on se sépare parce que voilà, il y a eu des problèmes, et finalement, on a l'impression que ces problèmes, ils nous suivent même après la séparation. Sauf
C'est
qu'ils
ça.
prennent d'autres formes. Et lorsqu'il y a un enfant, en fait, malheureusement, tous les problèmes sont transposés sur l'enfant, en fait. Il y a eu un transfert. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis avec toi, on se quitte, normalement, après, je ne suis pas censée avoir les mêmes problèmes. Parce qu'on
Bien
s'est
sûr.
quitté. Et c'est vrai que quand il y a un enfant, bah, ce qui est des fois très complexe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Des fois, voilà, à travers l'enfant, il y a encore les rancunes du divorce. Des fois, il y a aussi le côté vengeance. Les gens vont se dire, bah, maintenant
Tout à fait.
qu'on est séparés, je vais me venger à travers l'enfant. Donc, il y a vraiment
C'est
beaucoup de
ça.
choses qui prennent forme, des fois, au niveau de la coparentalité. Et je trouve toujours que la coparentalité, c'est un peu le reflet, finalement, de notre gestion, en fait, de l'après-couple, entre guillemets. Parce que quand on a un enfant, bah, ça nous suit, hein. Le lien
C'est
qu'on a
ça.
avec la personne, le père ou la mère, bah, ça nous suit, entre guillemets,
La
à
vie.
vie. Faut pas se mentir, parce que c'est vrai que des fois, on aime se dire, je gère bien, c'est bon, il fait plus partie de ma vie. Mais non, on a un enfant en commun, donc
Effectivement.
ça va nous suivre toute notre vie. Mais c'est vrai que c'est aussi un reflet. Et moi, je trouve toujours que quand une coparentalité ne fonctionne pas, en tout cas, il y a un déséquilibre, c'est qu'effectivement, il y a encore des choses qu'on doit régler. Parce que il faut surtout pas faire l'erreur de se dire, je vais faire comme ça, tant pis, ça fonctionne pas bien, parce que finalement, ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper, ben, que ce soit dans notre charge mentale, en fait. Parce que quand il y a quelque chose qu'on règle pas, ben, ça nous travaille. Ça peut aussi nous suivre dans notre prochaine relation. C'est-à-dire qu'après, ben, ça peut être complexe avec le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire, en disant, mais je comprends pas, pourquoi il se passe ça, pourquoi c'est pas bien fixé. Donc moi, je trouve toujours intéressant que, en tout cas, de pouvoir régler tout ce qui concerne la coparentalité avant de pouvoir se remettre en couple. Comme ça nous permet
Tout
vraiment
à fait.
d'arriver avec une base saine, entre guillemets, lorsqu'on rencontre une autre personne. Et
Tout
est-ce
à
que du
fait.
coup, Oui, je
Oui,
t'écoute?
non, non, vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé.
Non, et du coup, je voulais savoir, du coup, le fait que tu m'aies dit que normalement, c'est 5 jours que tu gardes ta fille et 2 jours, mais tu as dit finalement, c'est pas tout le temps respecté, mais en fait,
Voilà.
ça se manifeste comment?
Eh bien, exactement, je voulais rebondir dessus parce que je pense que à partir du moment où le juge a établi des règles, je pense que il faut les suivre. Mais à partir du moment où l'un d'entre nous justement déroge à ces règles, je pense que c'est là où la problématique se manifeste. Alors je m'explique, je vais donner un exemple concret. Par exemple, alors tu sais, hein, t'es maman, tu sais que par moment il y a des grèves, ça peut arriver dans voilà dans les école. Et c'est vrai que lorsque, par exemple, moi j'ai ma fille lundi, mardi, mercredi, le papa la prend. Donc je dépose ma fille mercredi soir, jeudi, et elle est aussi chez son papa, et moi je la récupère vendredi soir. Lorsqu'il y a par exemple grève, voilà, lorsqu'il y a grève par exemple lundi ou mardi, c'est à ma charge, en fait, c'est de ma responsabilité de trouver une alternative, en tout cas une solution pour pouvoir pallier justement à cet
Tout à
impondérable,
fait.
c'est-à-dire s'il y a la grève, moi je m'organise. Je fais du télétravail, enfin voilà, j'essaye un petit peu de m'organiser. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il y a un mouvement de grève et que ça se produit le jour pendant lequel le papa doit garder l'enfant, eh bien, il se décharge sur moi. C'est-à-dire qu'il me dit, par exemple, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, comment on fait pour la garde? Je lui dis, en fait, c'est ton jour, en fait, on est vendredi. Il me dit, oui, moi, je travaille. En fait, ça sous-entend que, comme je travaille, genre, moi, je travaille pas. Donc, c'est de ta responsabilité. Il me dit, mais tu fais du télétravail. Alors, ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est du télétravail hybride. C'est-à-dire qu'il y a des jours bien spécifiques pendant lesquels je dois travailler à la maison, et il y
Tout
a des jours spécifiques pendant lesquels je dois travailler au bureau. Et là, en l'occurrence, je suis pas présente, et c'est vrai qu'il y a des moments où effectivement j'ai demandé à faire du télétravail alors que normalement c'était pas ses jours.
Mais
Donc il me dit, eh ben oui, pardon,
non,
je
pardon,
t'écoutais pas.
excuse-moi, non,
Oui,
continue.
voilà. Et donc il me dit, oui, donc je travaille. Je lui dis, comme tout le monde, moi aussi je travaille. Il me dit, moi je peux l'emmener au travail, hein, c'est juste que si moi à ta place je faisais du télétravail, je l'aurais gardé. Donc là je l'ai mis au défi, j'ai dit, tiens, comme tu as trouvé une solution et que tu peux garder, en tout cas emmener la petite au travail, eh bien je te laisse le faire. Donc moi, ma décharge, pour moi c'était bon, c'était réglé. Le lendemain, on avait une réunion donc à l'école, la réunion se termine, moi je prends mon chemin, lui il prend le sien, et il m'appelle 2 minutes avant alors qu'on venait de se voir à la réunion, et il me dit on fait comment alors pour vendredi. Et moi je lui dis bah c'est ton jour. Donc je lui répète finalement ce qu'il me dit, il me dit oui. Mais comment on fait? Je lui dis bah je travaille. Il me dit ah d'accord, et donc je te la ramène à quelle heure? Donc je lui ai dit l'heure et voilà. Et en fait je me suis dit bah tiens, quelque part aussi avec le recul je me dis c'est peut-être de ma faute, parce qu'à force de dire oui à chaque fois qu'il me dit bah tiens il y a tel jour il y a la grève, bon en gros c'est mon jour, mais toi comme tu fais du télétravail et que bon tu te débrouilles plutôt bien à ce niveau-là, eh bien tu gères. Et je pense qu'à force d'avoir dit oui, parce que moi je dis oui pas pour le faire plaisir,
pour ton enfant,
et
c'est exactement ça, c'est qu'en fait voilà. Malheureusement, enfin non, ça part d'un bon sentiment, c'est ton enfant, donc forcément quand tu dis ça tu penses à l'enfant, tu dis bon oui. Bah comment on va faire, donc t'as pris entre guillemets l'habitude de dire oui, mais très souvent en fait quand on commence à dire oui bah ça devient une habitude, voilà. Et là, il y a un lâcher-prise en disant, bon, bah maintenant, en fait, quand j'ai un problème, je me détourne directement vers sa mère. Mais dans ces cas-là, quand, bah, effectivement, entre guillemets, il y a eu une habitude qui a été instaurée, en fait, il faut la casser. Il faut la casser, tout simplement. Et je trouve que c'est bien que tu aies pu dire, bah, en fait, compte, c'est pas mes jours, en fait. Moi, je me débrouille quand c'est mes jours. Là, c'est pas tes jours. Après, est-ce que, oui, exceptionnellement, des fois, tu peux le faire? Oui, tu peux. Mais maintenant, tu ne peux pas te permettre de te dire quand. Lui, il a cette responsabilité de à chaque fois de le décharger. Parce que finalement, en fait, limite, tu deviens.
J'ai plus de vie à
voilà, t'as plus de vie.
Après,
en fait, tu te transformes en nounou. Là, il ne voit même plus le côté maman. Hein. C'est la nounou.
C'est
qui encore? Il prend son téléphone. Ah, bah oui, elle est là. Il t'appelle.
Oui,
sachant qu'après, je te dis une bêtise, on va pousser même plus loin la réflexion. Demain, il a une femme. Il a une femme, on va dire, voilà, il refait sa vie. Ça veut dire que tu vois aussi la scène. Ça veut dire que toi, tu es là.
Bien sûr.
En fait, tu es aussi la nounou. Enfin. Un moment aussi, voilà, c'est important de pouvoir mettre les limites. Après, c'est pas évident parce que très souvent, les gens, ils vont juste sur l'émotion, en fait. Ils vont juste sur l'enfant. Mais comment on va faire? Mais normalement, si tu connais la personne, tu sais que l'enfant ne sera pas tout seul, il va pas être dans la rue. Enfin, ta petite fille ne sera pas assise par terre en disant on m'a abandonné. Donc, c'est vraiment ce côté aussi manipulation, en fait. C'est une sorte de manipulation de te faire croire que si tu ne fais rien, l'enfant, ben, il n'y a pas de solution.
Il peut lui arriver quelque chose.
Exactement. Imagine, il lui arrive quelque chose. Moi, je ne peux pas.
Ça.
Non, s'il travaille, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, c'est comme toute chose, ben on se débrouille. Par exemple, aujourd'hui, je suis censée travailler, mon enfant, il est malade. Je suis enfant malade. Et ça tombe sur ma semaine. Ce n'est pas la semaine de son père, ça tombe sur ma semaine. Ben, je prends la responsabilité. Et puis voilà, après, est-ce que ça me dit, ça n'empêche qu'un jour, ben, dans la semaine, s'il faut absolument que j'aille travailler, oui, je peux m'arranger avec son père, mais ça reste de l'exceptionnel. Et même avant de demander à son père, normalement, je demande d'abord à mon réseau, c'est-à-dire ma famille, mes amis très proches, et après, en dernier recours. Normalement, dans ce que les gens qui comprennent dans la coparentalité, c'est que ce n'est pas forcément la première personne à qui vers qui on se tourne, en fait. Et c'est vrai que très souvent, il y en a qui se vont dire « Non, mais c'est son père ou sa mère, je vais me tourner vers elle. » Et je dis toujours « Faites attention, parce que quand cette personne-là refait sa vie, vous allez voir que peut-être si elle avait l'habitude de vous dire oui, elle vous dira non. » Et là, vous n'allez pas comprendre. Et c'est pour ça que dès le départ, c'est mieux de prendre une position où on se dit tout de suite « Ok, comment on fonctionne ? Moi, c'est vraiment un dernier recours. Sache que si un jour je te demande, c'est un dernier recours. Et comme dernier recours, tu peux comme tu ne peux pas. C'est aussi une réalité. » Mais il ne faut pas, en tout cas, prendre la personne en disant, comme un acquis, en disant, ouais, je me retourne vers elle, c'est bon. Parce que, comme je disais, quand il refait sa vie, et très souvent, c'est ce type de situation où les gens sont vraiment très, entre guillemets, déçus, et ils ne savent pas à quoi faire. Ils me disent, mais avant, c'était quelqu'un qui me disait toujours oui. Mais je dis, oui, mais en entendant, il a refait sa vie ou elle a refait sa vie. Il y a d'autres enfants qui rentrent en jeu, n'oubliez jamais.
Bien sûr.
Exactement.
Totalement. Et puis, je rajouterais aussi je pense que la vision que se fait un père quand il a un enfant, je pense qu'il se repose en général beaucoup sur la maman, même s'il y a des pères solos. Oui, franchement,
chapeau pour les papas.
Mais je pense qu'en général, les papas se disent, après tout, l'éducation, c'est à la maman, en fait, de gérer cette éducation. Ou alors, c'est l'école, c'est les institutions qui sont là pour ça. Moi, je suis le père, je pourvois. Si au niveau matériel, je peux apporter ma part, et encore, c'est pas souvent le cas aussi.
Oui,
il y a des papas qui viennent juste prendre l'enfant, qui les déposent, mais tout ce qui est, je parle de mon cas principalement, tout ce qui est fourniture d'école, tout ce qui est habits, c'est une fois par an. de son côté. Mais moi, c'est pas une
oui,
fois par
mais
an,
tu peux pas.
J'estime qu'un enfant, voilà, ça grandit
vite. Ça grandit très vite.
Ça évolue vite, c'est ça. Ça mange beaucoup aussi.
Ah, ah oui, je confirme.
Exactement.
Ah, vois, moi, je suis... mais c'est quelque chose qui m'a surpris. Hein. Moi, je veux pas te mentir. Au début, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on ait la même assiette. Je suis adulte, t'es un enfant.
Exactement, t'es un enfant, mais c'est ça.
Ils mangent, ils, les enfants mangent, hein, vraiment. Le poste voilà. Nourriture, il n'est pas diminué
c'est
avec
ça,
un enfant.
C'est, ah, un,
c'est comme un adulte. Hein.
Exactement. Et le pire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de papas qui sont encore dans cet esprit-là. C'est que la maman, elle est là vraiment voilà, pour donner tout ce qui voilà, ce côté éducationnel aux enfants. Les institutions sont là, en l'occurrence l'école. Si jamais elle a une activité sportive à l'extérieur, voilà, lui, il est juste là pour pouvoir... pour voir, pardon, mais j'ai juste envie de dire à ces papas-là que non, parce qu'ils sont aussi autant responsables que la maman, que ce soit un enfant, fille, garçon, il aura toujours besoin et de son papa
et
de
sa maman, les deux, les
donc,
deux.
Les deux, donc il faut vraiment qu'on se complète et que l'un, justement, arrête de se reposer sur l'autre, parce que comme tu l'as dit tantôt, ça crée des déséquilibres, l'autre a amené aussi bah, à refaire sa vie, donc forcément, ça peut engendrer d'autres problèmes si jamais la personne décide de dire, bah non, écoute, là, je peux pas, j'ai une vie sociale aussi, donc voilà, c'est toutes ces choses qui font que bah, des fois ça peut être très complexe de pouvoir instaurer voilà, un bon climat au niveau de la co-parentalité, donc c'est ça, c'est un petit
non.
peu ça.
Non mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis et ça poursuit, enfin, c'est vraiment des choses qui nous suivent après, et c'est pour ça que oui. Moi je trouve que quand vraiment les deux personnes sont vraiment matures, et je sais que des fois, voilà, avec les relations amoureuses, la maturité elle se perd en cours de route. Mais c'est vrai que c'est important, moi, je trouve, de pouvoir se poser et pouvoir vraiment parler. Parce qu'effectivement, la difficulté de la coparentalité, c'est que quand on était ensemble, on avait, entre guillemets, la même éducation. Enfin, on s'était mis d'accord. Je dis bien entre guillemets, parce que même en étant des fois, en observant les couples, il y en a, ils ne sont pas forcément mis d'accord sur l'éducation. Mais on va dire, de manière générale, les gens sont mis d'accord. Et en fait, quand on se sépare, bah, chacun reprend ses habitudes. Chacun reprend ses habitudes, ce que la personne a voulu faire de base. Et très souvent, la problématique, c'est qu'il faut toujours penser à l'enfant. Plus les éducations seront différentes, mais vraiment totalement différentes, plus l'enfant, il va tout le temps devoir se réadapter. Mais c'est aussi c'est fatigant, ça. En fait, parce qu'effectivement, un enfant peut s'adapter, il n'y a pas de problème, mais ça reste quand même fatigant. Si, par exemple, je dis une bêtise, chez maman, il peut boire il ne peut pas boire du jus, et chez papa, il doit boire tout le temps du jus. En fait, ça, c'est des choses peut-être qui peuvent paraître anodines, mais sur du long terme, ça a un sens,
bien
en
sûr,
fait. Sachant que voilà.
C'est des règles, en fait. C'est des règles, en fait. Chez papa, chez maman, même si on est séparés, il faut qu'on fasse qu'un, en fait. Hein,
exactement.
Parce que l'enfant peut aussi jouer dessus. Par exemple, je sais qu'à la maison, j'interdis à ma fille, voilà, tout ce qui est YouTube, etc. Je ne veux pas qu'elle regarde, à part si je suis là et qu'on choisit ensemble ce qu'elle regarde, comme Macha et Miska, par exemple. Parce qu'avec
oui.
ce qu'on entend, voilà, c'est un peu compliqué.
Tout
alors
à fait.
Que quand elle rentre, elle me dit... bah écoute, moi chez papa, j'ai le droit de regarder YouTube, etc. Je lui dis, bah non, en fait, il y a des règles, il faut... Donc c'est bien aussi de pouvoir en parler à l'autre pour que justement les règles soient les mêmes, que ce soit chez papa et chez maman. Donc
oui,
c'est
oui.
vraiment important d'instaurer ça chez l'enfant.
Oui, le plus possible que toi. Les règles puissent en tout cas se rapprocher, parce qu'on sait effectivement dans le monde idéal, enfin voilà... On sait que ça ne sera pas forcément tout pareil, mais en tout cas qu'ils puissent
bien
se
sûr.
Rassembler. Mais pour ce faire, il faut discuter, il faut de la communication, il faut pouvoir que les deux parties puissent parler sans
bien
mettre
sûr.
D'émotion, en fait, sans se dire « Ah, mais moi, quand je te parle, je repense à ce que tu m'as fait hier. » Non, 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 ce n'est pas ça. Là, on parle du bien-être de l'enfant. Toujours, en fait,
bien
se
sûr.
Dire que c'est le bien-être de l'enfant. Comment on fait pour pallier, en tout cas, à tout ce que les inconvénients de la coparentalité, et qu'est-ce qu'on met en place, en fait ? Comment on fait ?
Totalement.
Comment on communique ? Comment on fait quand l'enfant doit aller à l'hôpital ? Comment on fait ? Si moi, par exemple, je suis véhiculée, toi, tu n'es pas véhiculée, est-ce que je te laisse quand même aller ? Est-ce que quand même sur ça, je te dis que je prends
bien
la
sûr.
Responsabilité ? Ça, tout ça, c'est
oui.
des questions qu'il faut se poser parce que sur,
alors,
on va dire, entre guillemets, sur 18 ans, et encore, je grossis, on sait très bien que les enfants restent plus longtemps, il va
oui.
s'en passer des choses. Il va se passer beaucoup de choses, en fait, au cours de la
et...
vie. Et il faut pouvoir être souple, entre guillemets, et il faut que la personne puisse aussi entendre des deux côtés, que voilà, les deux parties puissent entendre et pas se braquer à chaque fois
bien
qu'il y a
sûr.
Une discussion. Sinon, ça, on n'avance pas.
Totalement d'accord avec toi. Et je rebondis sur tes propos quand tu parlais d'hôpital, etc. Alors, c'est vrai que moi, j'ai vécu une expérience assez compliquée il y a quelques mois, puisque ma fille a été hospitalisée parce qu'elle a fait une crise d'asthme. Donc, par la grâce de Dieu, tout va bien, il n'y a pas de souci. La question s'est posée parce que lui, il ne conduit pas, moi, je conduis. Donc, ce soir-là, elle a fait une crise, elle était chez lui. Donc, moi, je n'étais pas forcément dans la même ville. Donc, j'ai dû revenir. Par la suite, je pensais qu'elle allait se calmer, mais non, effectivement, elle a fait une crise d'asthme. Donc j'ai dû l'emmener à l'hôpital. Donc lui, il est venu par ses propres moyens. Donc on s'est retrouvé à l'hôpital. Donc la même nuit, bon, moi je me suis dit, je vais rester. Lui, il a pris l'initiative pour dire, c'est pas grave, je reste à l'hôpital avec elle. Bon, très bien, je me suis dit, c'est bon, vu qu'elle a déjà fait une crise en 2021, mais c'est moi qui étais restée toute la semaine. Voilà, il n'avait pas dormi à l'hôpital, etc. Donc je me suis dit, c'est parfait, c'est bien parce que ça nous permettra d'alterner. Peut-être que lui, il dormira un, deux jours. Moi je dormirai un deux jours, etc. On alternera, sauf que c'est pas le cas, c'est-à-dire que donc moi je suis revenue le lendemain et je suis restée toute une semaine à l'hôpital, c'est-à-dire que à un moment donné, moi c'est mon enfant, hein, donc je l'aime, ça ne m'a pas dérangé de rester à l'hôpital, et je trouve ça légitime en fait, parce que de laisser ma fille comme ça à l'hôpital, ça ne me viendrait même pas à l'esprit, mais oui, j'aurais aimé, tu vois, en tant que papa. Au-delà du fait que il m'appelle pour me dire comment ça s'est passé, qu'ils prennent aussi les initiatives, qu'ils disent il suffit pas de me dire mais tu dois être fatigué, hein, c'est pas évident. Non, j'aurais aimé qu'ils disent ça fait 4 jours par exemple ou 5 jours qu'elle est restée à l'hôpital, elle a dû partir une fois rapidement pour prendre des vêtements pour la petite et pour elle, peut-être aussi qu'elle est crevée tout simplement parce que je suis juste un humain, si je restais par exemple une nuit. Tu
oui,
vois, sur
la
semaine, sur les 8 jours, par exemple, que la petite, une semaine, 8 jours à l'hôpital. Si je viens, par exemple, dormir une nuit, elle, ça peut aussi lui permettre, de souffler, de se reposer. Non, j'ai pas eu ça. La petite, elle est sortie, il faut qu'elle voie des spécialistes, un allergologue, et un pneumologue. À aucun moment, quand on est sorti de l'hôpital, il m'a appelé pour me dire, est-ce que tu as réussi à trouver un spécialiste, etc. Il fallait attendre 2 mois à la réunion de l'école, que j'explique à l'école j'ai trouvé des spécialistes, oui, mais qu'en 2024. Et il n'a pas rebondi là-dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui, non, mais je comprends, oui.
Il se concentre, en fait, il compte tellement sur moi, il se dit, c'est bon, c'est la maman, elle va tout gérer. Ah qu'à aucun moment, en fait, il y a un retour de sa part, mais moi, quand je fais quelque chose pour le bien de ma petite, par exemple, je dis, pendant les vacances, parce que je ne pense pas que c'est lui qui va dire, j'envoie ma fille une semaine dans ce pays ou dans cette ville, moi, je prends l'initiative pour dire, ma fille, elle va passer l'été chez sa grand-mère. Donc, limite, il me dit, elle va partir passer l'été chez sa grand-mère, mais je ne suis pas au courant, mais j'ai juste envie de lui dire, pour les autres choses, en fait, tu ne t'intéresses pas à ce qui se passe dans la vie de ta fille. Donc, maintenant, le fait que je l'envoie en vacances, ça pose un souci, sachant que dans tous les cas, tu vois, je lui aurais dit. Mais c'est juste pour dire que par moment, même si toi, tu as une volonté, en tout cas que la relation s'améliore pour le bien de ta fille, hein, pas pour toi ni quoi, parce que t'as tourné la page, mais tu sens que de l'autre côté, j'ai bien envie de l'embêter, quoi. J'ai bien envie de la faire chier pour telle ou telle chose. Donc du coup, je fais juste ce que j'ai à faire. Après tout, je vis ma vie, je suis plus avec la petite, je l'ai que 2 jours, donc je m'occupe d'elle pendant 2 jours, et le reste du temps, sa mère, elle gère. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, parce que tu parlais de communication, mais encore faut-il que l'autre soit ouvert à la communication et qu'il daigne accepter que effectivement, je ne suis plus avec la maman ou je ne suis plus avec le papa, mais pour l'enfant, on est prêt justement à instaurer des règles, à communiquer pour le bien-être de l'enfant. Ça, c'est encore un autre débat, un autre problème.
Non, mais du coup, c'est
beaucoup de couples.
Ça c'est vrai, ça c'est vraiment universel pour le coup comme sujet, mais c'est vrai que le fait que tu dises que finalement au travers de toutes les expériences tu t'es rendu compte que finalement il n'y a pas tant de communication, et surtout il n'y a pas ce côté parentalité, vraiment on est parent d'un enfant, comment on fait pour prendre les décisions, exactement. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est effectivement toujours l'incorporer dans les grandes décisions, mais c'est de pouvoir se dire qu'on ne peut pas forcément compter sur lui. Donc, de continuer, en fait. Parce que C'est vrai que le problème de la coparentalité, en tout cas même voilà, des séparations en général, c'est très souvent, il y a des fois un parent qui va abandonner, il va avoir le côté de j'ai raté ça dans ma vie, j'ai raté ça, donc en fait, c'est un peu comme si je le mettais de côté. Tu vois, quand par exemple, tu as raté quelque chose ou tu estimes en tout cas que tu n'as pas réussi quelque chose, des fois, voilà, il y a le côté,
Bien sûr.
oh, laisse tomber. Et des fois, c'est vrai qu'on le voit, c'est la personne elle va se dire, bon, quand j'aurai d'autres enfants, ça, je le ferai
C'est
mieux.
ça.
Et en fait,
Alors
entre
que
guillemets,
pas
l'enfant,
forcément.
il prend, enfin, il paye les pots cassés alors qu'il n'est pas censé payer les pots cassés. Parce qu'en tant
C'est
que
ça.
parent, on a toujours cette responsabilité. On a des
C'est ça.
devoirs et des droits envers notre enfant.
Des droits, bien sûr.
C'est pas se dire, ah ben non, je suis séparée, c'est fini. Non, on a des droits et des devoirs. Nos enfants, on est censé leur donner le plus possible, le meilleur qu'on a. Dans tous les
Bien
domaines,
sûr.
que ce soit en termes de mental, l'émotionnel, c'est très important, les émotions, spirituellement, financièrement, dans tous les domaines, en
C'est
fait,
ça.
on est censé les soutenir. Et c'est vraiment important. Et c'est ça, comme je disais, la problématique, c'est vraiment la coparentalité. Il faut toujours se dire, en fait, c'est le bien-être de mon enfant. C'est
L'enfant.
pas quelque chose avec, c'est pas un lien forcément avec la belle-mère, mon ex-partenaire, c'est.
Bien
Comment on
sûr.
fait pour le bien-être de notre enfant? Comment on fait
Exactement.
pour rendre notre enfant le plus stable émotionnellement, le plus stable possible pour son avenir? Comment on fait pour construire un avenir? Comment on fait en
Totalement.
fait? Comment on fait? Est-ce que tu continues à mettre de l'argent sur un compte pour l'enfant? Comment on fait? Est-ce que même ça devrait être
Ouh là là,
possible, tu
même
vois?
la
Mais
pension
ça,
alimentaire, hein, c'était
voilà.
compliqué.
Mais c'est pour ça que la CAF, il n'y a pas longtemps, ils ont mis un système de. Ils donnent directement l'argent aux personnes
Bah, c'est ce
qui.
que j'ai fait.
Et voilà,
Bah,
et
c'est
après, ils
ce que
vont
je fais.
récupérer directement auprès du père ou
Voilà.
de la mère.
Eh ben, t'as tout compris. Et oui, donc j'aimerais juste rebondir sur deux choses. Alors, la CAF, c'est très bien que tu l'aies évoqué. Parce qu'effectivement, moi, je bénéficie donc de la CAF dans le sens où la pension alimentaire, la CAF me la donne et ensuite ils lui prennent de son côté. Ce qui était quand même aberrant, hein, c'est que pendant des années, il n'a pas payé de pension alimentaire et sincèrement, je vais te dire, je n'attendais pas à ce qu'il le fasse parce que j'ai toujours travaillé assez jeune avant de le connaître, pendant et après. Donc, si tu veux, il n'y avait pas
D'accord.
forcément, voilà, je n'attendais pas forcément quelque chose de lui et lui était très surpris et limite en colère de savoir que la CAF lui réclamait cet argent
Ah.
et il me le reprochait en me disant bah, tu m'avais dit un jour que je n'avais pas voilà, à te donner la pension alimentaire, etc. Donc effectivement, j'ai reconnu, je lui ai dit c'est vrai, je t'ai dit que ce n'était pas forcément une nécessité, mais parce que je pensais que les crédits qu'on avait pris ensemble, eh bien, on continuerait à les payer tous les deux.
Ah
Donc
bah
pour
oui.
moi, je me suis dit, bah, au pire, c'est pas grave parce que bon, je gagne plutôt bien ma vie. Donc par conséquent, j'ai pas forcément besoin de la pension alimentaire. Mais le fait qu'on puisse régler nos crédits ensemble, eh bien, c'est très bien. Eh bien, devine quoi? Dès qu'on s'est séparés, monsieur a enlevé son RIB donc, bah, de la banque, hein, où on devait payer les crédits. Bah, j'en rigole parce que j'ai dû tout payer, mais maintenant, c'est du passé. Mais c'est juste pour dire la méchanceté des fois de certains parents, en tout cas de certains ex. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben mince, je me suis dit, bon, c'est pas grave, il va quand même payer pour les autres dettes, etc. Eh bien, Jessica, il n'a rien payé. C'est moi qui ai payé nos dettes qui s'élevaient à 10 000 euros.
D'accord.
Je l'ai dépayé. Donc, j'estime que quand la CAF réclame en tout cas la pension alimentaire qu'il n'a pas réglée, pour moi, c'est légitime et
Oui.
j'ai pas besoin de revenir sur mes paroles. Donc, ça,
Oui,
déjà,
effectivement, oui.
c'est un premier cas. Et un deuxième élément également sur lequel je voulais rebondir, qui est très important, parce qu'il y a des parents qui pensent que pour être papa ou pour être maman, je respecte simplement les jours que j'ai avec mon enfant, c'est-à-dire je vais chercher l'enfant à l'école, je le ramène à l'école, je lui donne sa douche, je lui donne à manger, le lendemain je le ramène à l'école, etc. Mais j'ai envie de te dire qu'être parent, c'est pas ça. Être parent, pour moi, c'est en plus effectivement de s'occuper de ton enfant, hein, de satisfaire ses besoins, que ce soit physiologique, etc., ce que tu veux. Mais il faut aller au-delà. Ton enfant, il faut l'emmener dans les bibliothèques. ton enfant, quand il fait un sport, en tout cas une activité extrascolaire, il faut l'assister, il faut être avec lui. Un enfant, il faut lui acheter le vélo pour qu'il puisse pédaler, parce que quand tu as ton enfant de 7 ans qui ne sait toujours pas pédaler, pas que c'est une tare, hein, parce que j'apprends à ma fille, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de soutien du papa pour dire « Ah ben tiens, ma fille m'a dit qu'elle faisait du vélo, bon, au niveau du vélo, ça va, tu as pu l'acheter, bon, est-ce que voilà, tel jour, je peux peut-être voilà, lui donner des cours de vélo ?» Tu vois ce que je veux dire ? Un parent, ce n'est pas juste aller chercher l'enfant à l'école.
Non, ça va beaucoup plus loin.
Dans les bons moments, comme dans les mauvais
moments. C'est vraiment, c'est ça.
Fêter son anniversaire, voilà, avec elle, pas juste attendre Noël et puis fine, tu vois. Non. Maman, pour mon anniversaire, j'ai envie de l'organiser à Youpi Park ou truc. Ben, je sais qu'au mois d'octobre, voilà, j'ai déjà anticipé, j'ai déjà demandé les prix, etc. Un enfant, il faut que tu saches là où ses couleurs préférées sont, où ses plats préférés, ses amis, enfin, qu'est-ce qu'elle aime.
Un enfant, ça prend du temps. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça demande vraiment du temps. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup à voir avec le côté, ça y est, quand il est nourrisson, il pleure plus, c'est bon, je peux le déposer à la crèche et c'est fini. Mais ça va beaucoup plus loin, comme tu dis, ça demande un temps d'observation. Faut l'observer. Exactement. Des fois, ça demande un temps d'observer, savoir pourquoi il réagit comme ça. Et comme tu dis, moi, ce que je disais dans un de mes derniers podcasts, c'est faut être intentionnel en fait en tant que parent. C'est bizarre parce que les gens sont intentionnels dans beaucoup de domaines de leur vie. C'est-à-dire que quand tu leur demandes leur plan de carrière, les gens sont clairs. Leur plan de je ne sais quoi, ils vont te dire d'investissement, ils vont dire ouais, je veux deux maisons, je veux deux trucs. Mais quand tu leur demandes à beaucoup de parents, c'est quoi tes intentions pour tes enfants? Là, bizarrement, très peu peuvent répondre. Parce qu'il faut être clair, en fait. Il faut savoir où je veux emmener mon enfant. Mon enfant, qu'est-ce que je voudrais qu'il fasse? Est-ce que j'aimerais qu'il parle... Je donne un exemple. Est-ce que j'aimerais qu'il parle 5 langues? Est-ce que j'aimerais qu'il aille dans telle école? En fait, qu'est-ce que tu souhaites pour ton enfant? Et c'est aussi ça, la problématique de la coparentalité. Quand je dis la problématique, c'est que... et ça, c'est même pas la coparentalité, la parentalité en général. C'est de savoir où tu veux emmener ton enfant. Faire des enfants faire des enfants, non. C'est, ok, j'ai un enfant, j'en ai deux, j'en ai trois, qu'importe le nombre. Qu'est-ce que j'ai comme plan pour eux, en fait? Qu'est-ce que je leur apprends? Si par exemple, tu es croyant, qu'est-ce que je leur apprends? Comment je fais? Est-ce que j'ai dédié un temps pour ça? Ou je leur dis juste, non, tu es croyant, non? Moi, en tant que chrétienne, on a des temps de méditation. On médite parole ensemble. On médite, il y a des soirs, hier soir, on était posés, on méditait la parole ensemble. Je lui lis les versets. Mais à un moment, si t'es pas intentionnel, parce qu'après, c'est plus tard, c'est toujours plus tard qu'on paye tout. C'est plus tard qu'après, on dit, mon enfant, il allait commencer à faire telle chose. Mais faut être intentionnel. Et encore plus quand on est dans une coparentalité. Et si on estime que l'autre parent ne joue pas totalement son rôle, il faut surtout pas, à son tour, abandonner, se dire, non, c'est pas grave. Avec ou sans toi, moi, j'ai mon plan de vision, j'ai ma vision pour mon enfant. Je vais tout faire pour l'emmener là où je dois l'emmener. Après, le reste, il y a toujours, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans la vie.
Exactement, et c'est très bien ce que tu viens de dire, parce que pareil, la prière, c'est moi qui lui en parle. Y a plein d'éléments comme ça. On était à la réunion parents-professeurs, et le professeur m'expliquait, en fait, il nous disait que votre fille, elle est très à l'aise en français, vraiment, elle a une facilité de lecture, enfin, à 7 ans, je veux dire, elle aide même les autres et tout, c'est parfait. Donc lui, il n'avait rien à dire, mais moi, j'avais des choses à dire, parce que ma fille, on a un rituel, c'est que chaque week-end, elle a le droit à prendre 2 livres, parce qu'ils font, tu sais, des promotions des fois à Carrefour, 1 euro le livre, enfin voilà. On a des rituels comme ça où chaque week-end, elle a le droit de prendre 2 livres. Donc forcément, on lit beaucoup à la maison. Elle peut éteindre la télé d'elle-même, elle lit beaucoup. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas. Hein. Sa mère est auteure, donc forcément...
Ça joue. Hein.
Le livre ne tombe jamais bien loin de l'arbre, hein, comme on dit. Donc forcément, ça se comprend. Donc j'ai su parler de ma fille parce que je la connais par cœur. Ou quand il a dit un deuxième élément où il dit Malissa est méticuleuse, parce que quand elle rentre à la maison, la première des choses, c'est qu'elle laisse son sac, elle lave ses mains, elle fait les devoirs. Mais moi, ça ne m'a pas étonnée, parce que depuis qu'elle a 4 ans, en fait, je lui enseigne ça. Parce que moi, c'est ce que ma mère m'a enseigné. Quand tu rentres de l'école, tu prends un temps, 5 minutes, une collation si tu n'as pas eu le temps de terminer ton goûter. Mais avant d'allumer la télé ou de faire quoi que ce soit, tu fais tes devoirs. Exactement. Et ensuite, tu peux vaquer à tes occupations. Mais quand ils ont parlé de ça, je me suis tue, parce que je me suis dit, bon, je vais encore dire dire voilà, c'est ce qu'on fait, j'ai pas envie voilà de m'attirer la foudre, hein, que voilà, mais j'étais fière en fait qu'ils le disent, parce que je me suis dit bah ça, ce sont des coutumes, on va dire, enfin des habitudes que moi j'avais avec ma mère, en tout cas mes parents, et je le transmets à ma fille. On fait la prière avant de dormir, elle a 7 ans, elle commence à me poser des questions sur Dieu, etc. Enfin, c'est un réel plaisir, je lui dis. Même voilà, quand elle me dit, ah maman, mais tu sais, les parents, il y en a qui sont encore ensemble. Bon, il y a des jours où j'aimerais bien et tout, voilà, que tu sois encore avec papa, ce qui est normal. Donc moi, je la rassure en disant, t'inquiète pas, nous, on t'aimera toute la vie. Tu as deux maisons, certes, mais sache que maman t'aimera, papa t'aimera et ce sera pour toute la vie. C'est pas parce qu'effectivement, les autres parents, ils ont papa, maman, parce que ça, c'est l'idéal. Hein.
Bien sûr.
Des fois, dans la vie, bah, tu peux te tromper et faire de mauvais choix. Mais t'inquiète pas, nous on est là, on t'aime. En fait, je comble parce que quand ça s'est terminé avec le papa, moi je lui ai dit, bah écoute, il faut qu'on le dise à la petite. Les années ont passé, Jessica, il l'a jamais fait. C'est moi qui ai pris la décision au bout de 2 ans, je pense, de faire asseoir ma fille, non, au bout d'un an, je pense bien un an et demi, de la faire asseoir et de lui dire, bah écoute, entre maman, même si je lui disais déjà qu'elle avait deux maisons, etc., mais elle comprenait pas, donc j'étais obligée de lui dire, eh bien, maman et papa ne sont plus ensemble, maman, elle fait sa vie, papa, il fait sa vie, mais sache qu'on t'aimera toute la vie. En fait, c'est moi qui ai porté
d'accord,
cette responsabilité, malgré que je suis allée vers lui pour lui dire, bah écoute, il faut qu'on annonce tous les deux à l'enfant qu'on n'est plus ensemble, etc. Et la seule réponse était oui, 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 oui. Mais en fait, rien ne s'est passé. Donc c'est ça. Donc vraiment, faire très attention à l'enfant parce que c'est comme il est comme une éponge.
C'est une éponge. Il absorbe tout.
Tu vois.
Il absorbe tout. Et il va sentir.
Oui.
Et ton enfant va sentir aussi, voilà, comment ça se passe avec l'autre parent. Ils sentent, ils ressentent. Et c'est vrai que c'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment que voilà, les deux puissent se mettre d'accord pour pouvoir communiquer, pour pouvoir voilà, partager des choses pour l'enfant. Parce que l'enfant, il le reconnaît, il le sent. Il va sentir, il va dire, ouais, mes parents, je sens que là, c'est un peu compliqué. Mais après, voilà, quand l'autre parent, bah, entre guillemets, ne joue pas le jeu, ben... Bah, on le fait tout seul et il faut continuer. Après, c'est comme je disais, il faut toujours continuer. Et c'est vrai que pour l'annonce, bah c'est vrai que l'idéal, c'est que les deux parents puissent faire asseoir l'enfant et puissent lui dire. Parce
oui,
que après, bon, bah, c'est l'idéal.
Ouais,
mais après, comme on dit, il y a l'idéal, mais il y a aussi les réalités. Et la réalité de la vie, c'est que quelles que soient les relations, quand ça se finit pas forcément comme on souhaiterait. Ça finit pas comme on peut voir des fois dans certaines émissions, les deux vont au restaurant, ils se mettent d'accord, ils peuvent parler. Il y a vraiment, enfin, il y a tout type, autant il y a tout type de relations, il y a tout type de séparation, il y a vraiment, il y a pas un modèle. Après, bien sûr, il y a toujours le modèle idéal, bon, bah, que ce soit pour le couple, donc c'est le père et la mère ensemble, ça c'est sûr. Après, même pour la séparation, on aimerait voilà, pouvoir parler à l'autre parent sans parler de notre vie avant, hein, c'est pas ça, c'est parler
ça,
pour le bien-être de l'enfant, mais quand ce n'est pas possible, ben oui, on pallie et on fait sans, parce qu'il faut toujours penser au bien-être de l'enfant, se rappeler que cet enfant, il n'a pas demandé à venir sur cette terre, mais il a quelque chose à faire, il a aussi une destinée, il faut travailler pour, en fait, et c'est là le problème, c'est qu'à force de trop se focaliser des fois sur l'ancienne relation, c'est l'enfant.
Oui.
L'enfant, lui, il est délaissé. L'enfant, il est comme voilà, une feuille, on va dire, sur un fleuve. Il va dans tous les sens. Non, c'est pas ça.
Exactement.
En fait, il faut toujours se rappeler, c'est-à-dire, non, moi, je sais, tu es sur cette terre. Maintenant, comme tu dis, je vais prendre du temps pour t'observer. Je vais prendre du temps pour savoir où sont tes talents. Qu'est-ce que tu fais bien? On va essayer de voir, même pour en termes d'activité périscolaire, voir où on peut affiner tes talents. Et c'est comme ça qu'en fait, après, tu peux faire des enfants qui malgré le fait qu'ils n'ont pas grandi dans un foyer avec le père et la mère, et ben après, ben, ils font des prodiges, en fait. C'est tout à fait possible.
Ce
n'est pas quelque chose d'impossible. Il ne faut pas se condamner en se disant, voilà, moi, je suis dans telle situation, c'est fini, mes enfants, ben, les pauvres, ça y est. Non, il n'y a pas de ça, en fait. Il n'y a pas de ça,
c'est tout à fait.
Il n'y a pas de fatalité. Voilà, c'est ça.
Oui.
C'est une action, en fait.
Il faut
être responsable et se dire, non, maintenant, moi, qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Je vais faire comme ceci, je vais faire comme cela, avec les moyens que j'ai, mais c'est possible, on va faire comme ça. Déjà, moi, ce que je conseille toujours, c'est le mercredi, c'est un superbe jour. le mercredi pour mettre son enfant au centre de loisirs parce qu'ils font des activités manuelles. Moi, je dis toujours, hein, parce qu'à un moment, je me rappelle, à l'époque, j'avais hésité à me mettre à 80%. Mais à la fin, je me suis dit, enfin, je me suis pas mise, mais je me suis dit, non, en fait, le mercredi, je préfère que tu ailles au centre. Parce que quand je vois ce qu'il revient, quand il revient du centre, il a toujours des choses, des activités manuelles. Mais des fois, il fait des choses. Je me dis, franchement, j'aurais été avec toi, même si on aurait regardé une vidéo YouTube ou un livre, j'aurais pas pu faire. J'aurais pas été capable. Et c'est une réalité, tu vois. Et ça aussi, ça me permet de savoir. Par exemple, moi, je sais que mon fils est manuel. Ses mains, c'est vraiment une bénédiction. Il fait des choses toujours incroyables. Et je me dis, gloire à Dieu, tu vois. Ça me permet de me dire, bon, mon fils, je sais que c'est au niveau des mains. Peut-être qu'il n'y a pas que les mains, mais en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose au niveau des mains. Et ça me permet aussi d'affiner, en fait, d'affiner bien tout ce que je peux lui proposer. Affiner même dans le sport. Alors, en ce moment, on s'y fait du basket. Donc, ça me permet, il est très à l'aise avec ceci parce que c'est les mains. Je me suis rendu compte. Mais ça m'a demandé du temps d'observation, d'investir sur son enfant.
Bien sûr.
Parce que il faut investir sur son enfant, quelle que soit la situation dans laquelle on est, il faut continuer d'investir sur son enfant. Et investir sur son enfant, c'est vrai que des fois, les gens, ils restent trop sur le superficiel, les vêtements, dire « Oh, je vais t'acheter des likes, des machins. » c'est pas mauvais, hein. Mais c'est pas ça le plus important.
C'est pas le plus important.
Surtout dans la génération dans laquelle ils vivent, ils vont être exposés à des choses qui sont très différentes de notre enfance. Avec tout ce qui se passe, malheureusement, le monde, il se pervertit de plus en plus. Donc, en tant que parent, on a encore une double responsabilité. Je dirais même notre responsabilité, elle est beaucoup plus grande que que celle de nos parents. Donc nous, on doit vraiment être encore plus vigilants sur leur fréquentation, vigilants quand ils auront les réseaux sociaux, vigilants sur leur tenue, surtout quand c'est des filles aussi, l'hypersexualisation. Il y a tellement de choses, l'école, les messages aussi que l'école donne, parce que maintenant l'école aussi commence à dévier les messages. C'est de plus en plus des choses qui sont liées à la société. Donc il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas lâcher, quelle que soit la situation dans laquelle on est au départ. Vraiment rester vigilant, se concentrer, investir sur son enfant. Et surtout communiquer, créer un climat de confiance. C'est vraiment la base. Parce que sans ce climat, parce que je vais te dire même, c'est pas ce qu'on souhaite, mais il suffit que là, chez son père ou chez sa mère, quel que soit votre cas de figure, ça se passe mal. Mais si votre enfant ne vous le dit pas, vous faites comment ? L'enfant, il n'a pas l'habitude de communiquer et de dire, il s'est passé telle chose. C'est pour ça que c'est vraiment important et c'est ce qui même sauvera. De plein de situations, les cas de harcèlement. Oui. Les cas de harcèlement.
Ben justement, c'est pour ça, pour rebondir ce que tu viens de dire. Moi, ma fille, comment je fais en fait ? Parce qu'on on est très, très fusionnel, mais je lui dis, ta nénette, c'est quelque chose de personnel. D'accord ? Quand tu grandiras plus tard, ce que je souhaite en tout cas, mais pas moi simplement, mais Dieu veut que tu arrives vierge au mariage. Donc ta nénette, il faut en prendre soin. Je lui dis aussi que personne n'a le droit de toucher ta nénette à part toi. Est-ce que tu as compris ? Que ce soit chez ton papa, à l'école, ta nénette, c'est à toi, ça t'appartient. Donc si une personne vient te toucher la nénette ou te touche les fesses ou voilà, tu me dis. Et là, donc un jour, tu vas rire, elle arrive et tout. Donc je lui dis, et tous les jours, hein, je lui dis, ça va, bon, qui a touché ta nénette ? Parce que je lui dis, hein, tu peux me faire confiance pour tout. Maman, voilà, je la rassure vraiment, t'inquiète pas. Maman, je suis là pour toi. Si jamais il y a un problème, tu sais que tu peux tout me dire. Et je lui dis, ça va, alors, qui a touché ta nénette aujourd'hui ? Et là, elle me dit, mais maman, mais personne n'a besoin de ma nénette pour écrire au tableau. Personne n'a besoin de ma nénette pour manger à la cantine. Mais tu vois, vraiment, en fait, je fais passer ça par l'amusement, mais en même temps, je lui dis, voilà, c'est quelque chose de très sérieux, mais malheureusement, il faut le faire, je pense, chez les filles et chez les garçons.
Non, chez les filles, chez les garçons, moi, mon fils, je lui apprends. Effectivement, moi, je lui dis, personne ne le fait. Si demain ça arrive, tu me préviens. Et toi aussi, à ton tour, tu ne le fais pas. En fait, je lui apprends toujours je lui dis toujours, ne fais pas. Ce que je te dis de ne pas faire, tu ne le fais pas aussi aux autres. Et du coup, ça permet, parce que c'est vrai que c'est aussi un sujet, ça on n'aborde pas, mais il y a beaucoup d'attouchements entre enfants. Il y a des choses qui se passent. Moi, je sais que j'étais beaucoup plus jeune, j'étais animatrice dans un centre de loisirs, mais je mangeais avec les directeurs, mais quand ils te racontent les histoires qu'il y a, je peux même pas le dire sur le podcast. Je me dis, ils font ça, des enfants de 4 ans, 4-5 ans. Donc, il se passe aussi des choses, en fait. Mais malheureusement, ces enfants, ils ont vu ça chez eux. Ils ont vu ça chez eux, ils le reproduisent. Eux, ils le reproduisent d'un côté innocent, tu vois. Mais ça, tu vois, ça fait des choses, tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, non, il se passe énormément de choses. Et c'est vrai qu'en tant que parents, il faut les protéger. Et vraiment, je dis vraiment encore plus dans l'époque dans laquelle on vit.